Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
On va finir aujourd'hui notre étude du psaume 119. Nous en sommes dans la dernière partie. Et nous allons lire à partir du verset 169 jusqu'au verset 176. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse. Que mes lèvres publient tes louanges, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes ordonnances. Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. Que mon âme vive et qu'elle te loue. Que tes jugements me soutiennent. Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Amen. Je vous rappelle que l'Ancien Testament, c'est quelque chose d'assez faible en comparaison avec le Nouveau Testament. L'Ancienne Alliance, c'était pour un peuple qui n'était pas né de nouveau, qui connaissait Dieu dans une certaine mesure, car on doit savoir que la Bible est une révélation progressive de Dieu. Et il est important, quand on lit ce genre de choses, c'est de les comprendre à la lumière de la Nouvelle Alliance dans laquelle nous sommes. Et si je voulais enseigner ce matin à propos de la Nouvelle Alliance, et d'ailleurs c'est ce que je veux faire, amen, eh bien, il y a certaines choses que ce n'est pas vraiment qu'on peut démentir, parce que la parole de Dieu est la parole de Dieu, mais rappelons-nous une chose, c'est qu'il y a des choses qui ont été dites pour une époque donnée, pour un temps particulier. Amen. Si on peut comparer de cette manière-là, c'est que quand quelqu'un est un enfant, il pense comme un enfant, il parle comme un enfant et il agit comme un enfant. Vous avez remarqué, un enfant qui a 7 ans ou 8 ans, il ne va pas penser, ni parler, ni agir comme un adulte. Pourquoi ? Parce qu'il est encore enfant, parce qu'il lui manque de la connaissance, parce qu'il lui manque de la compréhension. Je me rappelle quand mes enfants étaient petits, l'un d'entre eux, il aimait bien m'expliquer. Il aimait bien me donner des explications sur le fonctionnement des appareils, que ce soit les appareils ménagers, les appareils musicaux, différentes sortes d'appareils ou différentes façons de faire certaines choses. Il me donnait des explications parce que il regardait ces choses et il y avait tout un raisonnement qui se déclenchait en lui et il voulait m'expliquer. Et des fois, ça me faisait rire parce que son explication, elle ne tenait pas debout. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes en Christ et il y a certaines choses, du fait que nous sommes nés de nouveau, que nous ne pouvons pas prier et que nous ne pouvons même pas exprimer parce que nous sommes dans une autre alliance. Les gens qui ne sont pas nés de nouveau, les gens de l'Ancien Testament n'étaient pas nés de nouveau et de ce fait, ils n'avaient pas la présence de Dieu en eux. Amen. On le voit dans la vie du roi David quand il dit « Ne me retire pas ton esprit ». On le voit dans la vie du roi David qui dit « Ne me retire pas ton esprit ». On le voit dans différents psaumes. « Quand irai-je devant ta face ? Quand paraîtrai-je devant toi ?» Ça, c'est le psaume 42. Et différents moments comme ça, la vie des hommes de l'Ancien Testament qui n'avaient pas la présence de Dieu dans leur cœur se trouvaient parfois dans des situations où il y avait tellement de pression, tellement de difficultés, tellement de choses qui venaient contre eux qu'ils n'arrivaient même plus à voir où est Dieu et qui est Dieu, ce qu'il fait et ce qu'il peut faire. Mais pour nous, les choses, et je dis gloire à Dieu pour ça, merci Seigneur pour ça, il est en nous, il n'a pas l'intention de déménager. Dieu est en nous, il n'a pas l'intention de déménager. Dieu est en nous, Dieu est avec nous, Dieu est pour nous et sa parole est vraiment la base sur laquelle nous pouvons nous appuyer et construire toute notre vie. Donc ce qui est intéressant, c'est de vraiment toujours, quand nous lisons la parole de Dieu, se dire au fait, de quoi est-ce que l'on parle ici ? À qui cela s'adresse-t-il? En quoi est-ce que moi, personnellement, ça me concerne? Est-ce que je peux vivre et marcher avec cela? Ou est-ce que je dois comprendre et considérer que ces choses, bien que tout est vrai dans la parole de Dieu, ne me concernent plus vraiment aujourd'hui parce que Dieu a fait quelque chose de nouveau. Il a donné Jésus, alors qu'à cette époque, il ne l'avait pas encore donné. Et c'est vraiment important que nous puissions toujours comprendre ces choses. Tu lis un passage et tu te dis, est-ce que ça c'est pour moi? Est-ce que ça, ça me concerne? Comment est-ce que je peux le comprendre? Comment est-ce que je peux l'appliquer dans ma vie? Sinon, on va tomber dans du n'importe quoi. On va tomber dans des choses bizarres. Amen. Il y a des personnes qui mélangent l'Ancien et le Nouveau Testament et ça finit par arriver dans des choses vraiment qui ne sont même pas bibliques. Il y a des gens qui mélangent Ancien, Nouveau Testament. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, on voit que on parle des ennemis de Dieu, n'est-ce pas? Les ennemis de Dieu, et que Dieu juge ses ennemis et que Dieu détruit ses ennemis. Amen. Ça, on le voit continuellement dans l'Ancien Testament. Alors, si aujourd'hui, ces choses dans le temps dans lequel nous sommes sont vraies, alors on a un problème. Parce que dans la première épître de Paul à Timothée, il est dit que ceci est bon et agréable devant notre Père qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de Christ. Nous sommes dans le temps de la grâce. Et ce temps de la grâce ne va pas durer éternellement, faut bien comprendre. Faut bien le comprendre. Depuis la résurrection de Jésus jusqu'au jour où Jésus va revenir enlever son Église, nous sommes dans le temps de la grâce. C'est-à-dire que Dieu ne juge pas les hommes pour les détruire, mais Dieu leur offre au travers de Jésus un salut éternel. C'est le temps du salut, c'est le jour du salut. Ensuite, l'Église va être enlevée et il va y avoir une période de 7 ans sur la terre qui s'appelle la tribulation. Et dans ce temps de tribulation, Dieu va envoyer ses jugements sur le monde. Mais nous ne sommes pas dans un temps de jugement. On doit le comprendre. J'ai entendu une histoire comme ça, quelqu'un qui dit « Dieu va détruire ses ennemis ». Donc ça voudrait dire que demain ou après-demain, des hommes qui sont ennemis de Dieu vont être détruits, ils vont mourir. Mais ce n'est pas dans ce temps-là. Amen. Nous ne sommes pas dans ce temps-là. J'ai entendu une autre histoire qui disait que Dieu nous tient par les cheveux au-dessus de l'enfer et il est en train de se demander s'il va nous lâcher ou pas. Et ça, c'est complètement faux et archi faux. Amen. On doit exactement comprendre et savoir où nous en sommes par rapport à la parole de Dieu dans l'alliance dans laquelle nous sommes. Quand il dit que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel, ça veut dire qu'il n'est même pas sûr. Il n'est même pas sûr, il crie. Il crie le jour, il crie la nuit, mais tu ne me réponds pas. Ça, ce n'est pas pour nous. Amen. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Amen. Et vous le verrez. Croyez ce que vous l'avez reçu, tout ce que vous demanderez en priant. C'est dans Marc 11, versets 24 ou 25. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je pense que quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, n'est-ce pas, une chose vraiment banale, admettons que vous ne savez pas l'heure qu'il est, vous avez un rendez-vous, vous n'avez pas de montre, il n'y a pas de pendule dans les environs, votre téléphone portable est déréglé ou vous n'en avez pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aborder quelqu'un dans la rue, n'est-ce pas? Et vous allez lui dire, au fait, est-ce que tu sais l'heure qu'il est? Vous allez lui poser une question comme ça. Est-ce que tu peux me dire l'heure qu'il est? Vous allez le dire de cette manière-là. Quand vous êtes chez vous, si vous avez une famille, si vous êtes une femme mariée et que vous avez besoin de quelque chose que votre mari peut faire, vous allez lui demander la chose qu'il peut faire, une chose que vous ne pouvez pas faire. Admettons un problème électrique dans la maison, alors si votre mari est compétent, bien sûr. Je suis en train de donner des exemples. Vous allez dire à votre mari, est-ce que tu peux réparer cette prise, s'il te plaît? Parce que vous savez que vous n'êtes pas capable de le faire, n'est-ce pas? On demande aux personnes, mais ça ne vous viendra jamais à l'idée, j'imagine, d'aller dans la rue et dire, est-ce que tu peux me dire l'heure qu'il est? Personne ne peut faire ça. Ou si vous demandez à votre mari de réparer la prise, vous n'allez pas dire « Oh, s'il te plaît, aujourd'hui, je viens devant toi. Pourrais-tu entendre ma voix et réparer cette prise qui ne fonctionne pas ?» Si vous faites ça, votre mari va vous dire « Ça va pas la tête, non ?» Ou si vous demandez à quelqu'un l'heure qu'il est dans la rue en hurlant, il va vous regarder en disant « T'es malade, toi ?» Tu n'as pas besoin de crier devant Dieu. C'est exactement la même chose. Que mon cri monte vers toi, ça c'est des histoires de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, Dieu est ton père. Avant, il n'était pas leur père. Dieu est ton père parce que tu as cru en Jésus. Parce que tu as cru en Jésus, Dieu t'aime, il est devenu ton père. Et quand on a tous eu des pères, peut-être certains d'entre vous, vous n'avez pas eu de père, mais vous pouvez voir dans d'autres endroits des gens qui ont des pères. Et quand on a besoin de demander quelque chose à son père, on va le demander d'abord avec respect. On ne va pas lui crier dessus, on ne va pas lui donner des ordres, on ne va pas avoir des exigences, on ne va pas crier. On va dire, papa, est-ce que je peux te parler un moment ? Il y a telle et telle chose, est-ce que tu peux faire quelque chose par rapport à cela ? C'est en principe, c'est de cette façon-là que l'on s'adresse à son père. Donc, que mon cri monte vers toi, d'abord, il n'y a pas besoin de crier, Dieu n'est pas sourd, amen. Nous, parfois, les hommes, on n'entend pas toujours très bien parce que des fois, on est distrait ou il y a des gens qui ont des problèmes d'audition. Mais Dieu n'est pas sourd. On doit savoir de quelle façon on s'adresse à Dieu, amen. Et en plus, comme Dieu connaît tout, voit tout, entend tout, il n'y a même pas vraiment besoin de crier. Avant même, comme le dit le psaume 139, avant même que la parole soit dans ma bouche, tu la connaissais déjà. Avant même que tu ouvres ta bouche, Dieu sait ce que tu vas dire. Il sait exactement ce que tu vas dire, comment tu vas dire, pourquoi tu vas le dire. Il le sait. Donc, il n'y a pas besoin de faire de très longs discours et certainement pas de crier, parce que crier sur Dieu, c'est vraiment lui manquer de respect. C'est vraiment. Tu peux crier sur tes enfants quand ils te dérangent ou tes domestiques quand ils te font des blagues. Mais si tu as un patron, tu ne vas jamais lui crier dessus, même si tu n'es pas vraiment contente ou content. Amen. Donc, faisons attention à la façon dont nous abordons Dieu. Après, il continue. Ça, c'est une bonne chose. Donne-moi de l'intelligence selon ta promesse. Et cette promesse, on peut la trouver dans deux passages de la Bible auxquels je pense à l'instant même. On va commencer dans Ésaïe, chapitre 11. Ésaïe, chapitre 11, verset 2, qui nous parle de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, là, dans ce contexte, c'est le Saint-Esprit qui allait reposer sur Jésus quand Jésus allait venir sur cette terre. Et je vous assure que c'est le même Saint-Esprit qui repose sur nous aujourd'hui, le Saint-Esprit qui nous a été donné, qui a été donné le jour de la Pentecôte. Il parle d'un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, un esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire le discernement. Celui qui nous donne de l'intelligence, c'est le Saint-Esprit. Amen. Nous avons une intelligence naturelle, tout le monde a une intelligence, mais je pense que vous avez déjà remarqué, si vous êtes un tant soit peu humble, que votre intelligence est limitée. Notre intelligence à tous est limitée, notre connaissance est limitée, notre sagesse est limitée. Amen. C'est pour ça que nous avons tellement besoin de l'intelligence qui nous est communiquée par le Saint-Esprit. L'intelligence qui vient de Christ. Christ, il est le plus intelligent. Il n'y a pas quelqu'un qui soit aussi intelligent que lui. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais quelqu'un comme lui. Amen. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Saint-Esprit est là pour nous communiquer cette intelligence. Et on peut lui demander selon ta promesse, c'est-à-dire selon la promesse de la parole de Dieu. Il y a un autre passage dans 2 Timothée qui ne nous parle pas vraiment de l'intelligence, mais ça concerne le ministère du Saint-Esprit. Donc c'est pour ça que j'ai voulu d'abord aller dans ce passage de Ésaïe chapitre 11, parce que ça nous montre ce que le Saint-Esprit communique à notre vie. Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, il est dit... Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Et on pourrait aller plus loin en disant, son esprit nous remplit d'intelligence. Amen. Je vais revenir dans ce passage d'Ésaïe. Son esprit nous remplit de sagesse, nous remplit d'intelligence. Il nous communique des conseils, nous remplit de force, nous remplit de connaissances, nous remplit de crainte de l'Éternel et nous remplit de discernement. Amen. Ça, c'est la promesse que nous avons. Ceux de l'Ancien Testament, ils n'avaient pas vraiment cette promesse. Amen. Nous avons cette promesse. Il nous donne de l'intelligence pour le connaître, pour le comprendre, pour comprendre sa parole, pour comprendre les choses qui nous entourent, pour comprendre les vraies motivations des gens de notre entourage. Est-ce que vous savez que nous avons besoin de connaître les motivations réelles? Pas ce que les gens montrent, pas ce qu'ils prétendent. Parce que ce que les gens montrent et ce qu'ils prétendent, parfois c'est vrai, mais parfois c'est très loin de la vérité. Amen. Et nous avons vraiment besoin de discernement, nous avons besoin de connaître ces choses. Nous avons vraiment besoin de savoir. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous le montrer. Parce que c'est le Saint-Esprit qui sonde les cœurs. Amen. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Et ça, c'est encore autre chose pour nous. Notre supplication arrive toujours à Dieu. Et quand on parle de supplication, ce n'est pas « Oh Seigneur, je t'en supplie !» Oh Seigneur, je t'en supplie, fais ceci, fais cela. Dans Éphésiens chapitre 6 et verset 18, il est dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Quand on parle de supplication dans le Nouveau Testament, il ne s'agit pas de supplier. « Oh, je t'en supplie, Seigneur, fais ceci, fais cela. Oh, je t'en supplie, Seigneur, aide-moi à ce niveau-ci, à ce niveau-là. » Si la supplication, c'était ce genre de prière, alors ça voudrait dire que Dieu est un père indigne. Si votre enfant est obligé de venir vous voir en disant « Papa, je t'en supplie, j'ai faim, donne-moi à manger. » Si votre enfant est obligé de vous demander comme ça, ça veut dire que vous êtes un mauvais père. Amen. Ou une mauvaise mère. Mais un enfant qui a faim, des fois, il n'a même pas besoin de demander à manger. Il se sert. Il sait que c'est là, il peut prendre parce qu'il a le droit de manger à sa faim. Amen. Et la supplication, c'est une forme de prière. Ça n'a rien à voir avec le fait de supplier. Amen. Amen. Ça se rejoint avec l'intercession quand on prie pour d'autres personnes. Amen. Donc, que ma supplication monte vers toi dès que tu ouvres la bouche, de toute façon, étant donné que tu es un enfant de Dieu, ta prière monte directement vers le ciel. Amen. Tu n'as pas besoin d'essayer de crever le plafond pour que ta prière monte jusqu'au ciel. Au moment où tu ouvres ta bouche, Dieu entend ce que tu as à lui dire. Dis, délivre-moi selon ta promesse, que mes lèvres publient ta louange. Car tu m'enseignes tes statuts. Par contre, là, il y a vraiment quelque chose qui nous concerne. Loue le Seigneur. Sois toujours reconnaissant. Parce que ce que tu es, c'est lui qui l'a fait de toi. Ce que tu connais, c'est lui qui te l'a enseigné. Ce que tu as, c'est lui qui te l'a donné. Et on peut louer le Seigneur parce qu'il nous donne de la compréhension par rapport à sa parole. Amen. Que mes lèvres publient tes louanges. Et là encore, on peut s'exhorter les uns les autres. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Qu'est-ce que tes lèvres publient? Est-ce que tes lèvres publient les erreurs de tous les gens que tu connais à longueur de journée? Est-ce que tes lèvres publient des ragots? Est-ce que tes lèvres publient des critiques? Où est-ce que tes lèvres publient les louanges de Dieu? Vous savez, les erreurs des autres, souvent, on n'est pas capable de les changer, n'est-ce pas? Parfois, quand c'est dans notre propre maison, quand ce sont, par exemple, nos enfants, on peut changer certaines choses. Quand ça concerne notre travail et que c'est notre responsabilité, on peut changer certaines choses. Amen. Mais quand il s'agit de la vie de X, Y ou Z, qu'est-ce que l'on peut faire? Rien du tout. Amen. On ne peut pas changer les choses. On ne peut pas changer les gens. Et le fait d'en parler n'amènera pas le changement. Par contre, le fait de parler, ça nous entraîne dans un circuit qui est loin de Dieu, parce que Dieu ne siège pas dans les critiques. Si vous voulez faire du mal à votre vie spirituelle, si vous voulez vous affaiblir, si vous voulez ne plus avoir cette conscience de la présence de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus là, il est toujours là, mais parfois on perd la conscience de la présence de Dieu. C'est quand on rentre dans ce genre de choses, quand avec notre bouche, on dit des choses que la parole de Dieu nous dit de ne pas dire, de ne pas les dire parce que d'abord on ne peut pas les changer et d'autre part que quand on est en train de prononcer ce genre de paroles, on se nuit à nous-mêmes et on n'aide pas ceux qui sont dans des problèmes. Tu peux voir une faiblesse chez quelqu'un, le fait d'en parler, ça ne va pas changer la personne, d'une part. Et d'autre part, le fait d'en parler, ça ne va pas aider la personne qui a ce problème. Surtout quand tout le monde est en train de faire... Vous savez, les gens qui parlent beaucoup des uns et des autres, ce sont les enfants. Quand on voit les enfants dans les écoles, ils ne passent leur temps qu'à parler les uns des autres. Et à dire ce que lui a fait, ce que lui il est, ceci et cela. Mais quand on veut grandir et grandir dans le Seigneur, on doit apprendre à garder notre bouche et avec notre bouche, parler d'abord la parole de Dieu et aussi publier les louanges de Dieu, louer le Seigneur. Et je vous assure que cela change entièrement et complètement l'atmosphère de notre vie. Que mes lèvres publient tes louanges, parce que tu m'enseignes tes statuts, tu m'enseignes ta parole, que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements soient justes, que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes ordonnances. Amen. Si tu veux que le Seigneur te vienne en aide, choisis de marcher avec lui et choisis de marcher avec sa parole. Amen. Il dit, je soupire après ton salut éternel et ta loi fait mes délices. Que mon âme vive et qu'elle te loue, que tes jugements me soutiennent. Ça, c'est la conséquence de marcher avec la parole de Dieu. Il est en train de le dire d'une autre façon, bien sûr. Mais il dit, j'ai choisi tes ordonnances. Je soupire après ton salut. Ta loi fait mes délices. Et à cause de cela, ta main va me venir en aide. Amen. Amen. Ensuite, il termine en disant, je suis errant comme une brebis perdue, cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Toi et moi, nous ne sommes pas errants comme des brebis perdues. Ça, c'était vrai pour l'Ancien Testament. Nous étions tous errants comme des brebis. Ça, c'est Ésaïe. On va lire ensemble. Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Amen. Ça, c'est les personnes sans Christ, avant la venue de Jésus-Christ. Psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger. Jean chapitre 10, tout le chapitre 10 est consacré à Jésus, Jésus qui est le bon berger. Donc, si dans ce psaume tu lis, je suis errant comme une brebis, toi tu peux dire, Seigneur, merci, parce que tu es mon berger. Et ça, c'est la vérité. Je ne suis pas errant. Si tu es errant, c'est parce que tu ne suis pas le berger et que tu ne veux pas le suivre, que tu te donnes des raisons et des prétextes pour ne pas le suivre. Mais à partir du moment où tu choisis et que tu suis le berger, tu n'es pas errant parce que le berger t'a accepté et il est prêt à te diriger en toutes choses. Amen. Passez une bonne journée et que le Seigneur vous bénisse.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.